Bonsoir à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 6 janvier 2025. En direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. Conakry est sous tension ce lundi alors qu'une manifestation organisée par l'opposition a été interdite par les autorités. Au Mali, un influent chef musulman prêchant la modération est décédé à la suite de son enlèvement par des djihadistes. Les législateurs américains se réunissent aujourd'hui pour certifier les résultats de l'élection présidentielle du mois de novembre, remportée par Donald Trump. Toujours aux États-Unis, plus de 55 millions de personnes sont touchées par une tempête qui devrait plonger la moitié de l'est du pays dans un froid glacial jusqu'à lundi. Et dans notre partie magazine, au Togo, la santé et l'éducation sont parmi les secteurs auxquels le gouvernement accorde une priorité dans le budget 2025 voté.
Il apparaît clairement que le budget exercice 2025 est aligné sur les priorités du gouvernement, répondant ainsi aux aspirations profondes des populations.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. La capitale de la Guinée, Conakry, est sous tension ce lundi. Une manifestation organisée par l'opposition pour réclamer le départ de la junte au pouvoir a été interdite par les autorités. Alexandrine Holognon.
À bord ou près de blindés et de pick-up de la police et de la gendarmerie, des hommes armés et casqués dispersent tout attroupement et ordonnent à tous de rentrer chez eux. Les autorités guinéennes ont interdit dimanche soir la manifestation, affirmant qu'elle n'avait pas été déclarée. Des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre dans plusieurs quartiers chauds de la capitale dimanche soir, notamment à Koloma, où un leader du parti, l'Union des forces démocratiques de Guinée, le principal parti du pays, ainsi que plusieurs jeunes ont été arrêtés. Ces manifestations régulièrement organisées par l'opposition et systématiquement interdites par la junte paralysent la capitale guinéenne et sont généralement émaillées de violences qui entraînent des pertes en vies humaines. Les Forces vives de Guinée, un collectif regroupant les principaux partis d'opposition et des organisations de la société civile, exige le départ de la junte militaire qui a pris le pouvoir en renversant le président civil Alpha Condé en 2021 et la mise en place d'une transition civile.
Au Kenya, 4 jeunes qui avaient disparu le mois dernier lors d'une vague d'enlèvement de critiques du pouvoir ont été libérés lundi, ont rapporté les médias locaux et des groupes de défense des droits humains. La disparition d'au moins 6 jeunes lors des vacances de Noël a dominé les débats politiques et fait les gros titres dans le pays d'Afrique de l'Est ces dernières semaines. La Commission nationale kenyane des droits humains a enregistré 82 cas d'enlèvement depuis des manifestations antigouvernementales durement réprimées en juin et juillet. Fin 2024, 29 de ces personnes enlevées étaient toujours portées disparues selon la commission. 10 civils soudanais ont été tués et plus de 30 blessés dans une frappe aérienne de l'armée sur le sud de Khartoum, selon des secouristes volontaires. La frappe de dimanche a été à viser un marché de la ceinture sud de la capitale pour la 3e fois en moins d'un mois, a déclaré un responsable de la salle d'intervention d'urgence locale qui fait partie d'un réseau de volontaires à travers le pays, coordonnant l'aide de première ligne. Il a déclaré que les victimes ont été brûlées vives et que les blessés transportés à l'hôpital local Bachir souffraient de brûlures, dont 5 étaient dans un état critique. Un influent chef musulman malien prônant la modération est décédé après son enlèvement par des djihadistes fin décembre. C'est ce qu'indique un message audio attribué à l'un des principaux chefs djihadistes et circulant sur les réseaux sociaux. Plus d'infos avec Nani Talani.
Tierno Amadou Adital avait été victime près de la frontière mauritanienne d'un kidnapping imputé au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda. Il a succombé après l'enlèvement au cours de son transfert vers un lieu où il devait être interrogé, dit un enregistrement sonore attribué à Amadou Koufa, un des chefs du Djenin. Tierno Amadou Adital avait été blessé au cours de l'enlèvement alors qu'il revenait dans un convoi de voitures d'une rencontre religieuse, a rapporté un membre de la famille s'exprimant sous anonymat pour sa sécurité. Il a jugé crédible l'annonce de sa mort. Le Djenin, partisan d'une application littérale rigoriste de l'islam, accusait Tierno Amadou Adital de traiter avec l'État malien que combattent les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique. Tierno Amadou Tall était le calife général de la Tiyadiya, l'un des principaux courants du soufisme en Afrique de l'Ouest, et prêchait la non-violence.
6 soldats nigérians ont été tués et plusieurs autres blessés lors d'une attaque de djihadistes affiliés à l'État islamique contre une base militaire dans l'État de Borno, dans le nord-est du Nigeria. C'est ce qu'ont indiqué lundi 2 officiers militaires. Dimanche, des combattants de l'Est de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, ont attaqué à bord de camions et de motos avant l'aube la base militaire de Sabon Gari dans le district de Damboa. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a salué lundi l'amitié ancienne entre l'Afrique et son pays qu'il a qualifié de partenaire le plus fiable du continent lors d'une brève visite en Namibie. Première étape d'une tournée africaine, Wang Yi devrait se rendre ensuite au Congo avant de visiter le Tchad et le Nigeria cette semaine. Pékin veut montrer, en respectant cette tradition de visite diplomatique, que la Chine est le partenaire le plus fiable des pays africains dans la poursuite du développement, ainsi que le plus fort soutien de l'Afrique sur la scène internationale, a souligné le ministre. Plus de 30 millions de personnes, dont plus de la moitié sont des enfants, ont besoin d'aide au Soudan après 20 mois d'une guerre dévastatrice dans ce pays d'Afrique de l'Est, ont annoncé lundi les Nations Unies.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Congrès des États-Unis se réunit aujourd'hui à la mi-journée pour certifier les résultats de l'élection présidentielle du mois de novembre, remportée par Donald Trump. Les détails avec Jean-Roger Billon.
Selon les résultats encore non officiels du scrutin du 5 novembre, Donald Trump a remporté 312 grands électeurs contre 226 pour la candidate démocrate Kamala Harris. Les républicains ont aussi obtenu une courte majorité au Sénat et à la Chambre des représentants, ce qui donnera à Donald Trump une certaine marge de manœuvre pour mettre en œuvre son programme après sa prestation de serment le 20 janvier. La certification des résultats de la présidentielle par le Congrès représente traditionnellement une formalité avant l'investiture officielle du nouveau président le 20 janvier, mais l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021 par les partisans de Donald Trump est dans tous les esprits. Pour éviter qu'un tel événement se reproduise, le Congrès a adopté fin 2022 une loi modifiant les règles de certification des résultats de l'élection présidentielle, rendant notamment le rôle du vice-président plus cérémoniel. C'est donc à la vice-présidente sortante Kamala Harris que reviendra ce lundi le rôle de sceller sa propre défaite et le retour imminent de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Une dangereuse tempête hivernale s'abat depuis dimanche sur le centre des États-Unis jusqu'à la côte est où des millions de personnes sont menacées par des conditions de blizzard. Les précisions de John Lindon.
Plus de 60 millions de personnes se trouvent sur la trajectoire de la tempête qui va balayer les États-Unis du centre jusqu'à l'est avec de l'air arctique jusqu'en fin d'après-midi de ce lundi et entraîner de fortes perturbations des déplacements. Le service météorologique national a prévenu contre les risques de verglas, de neige et de vents violents de l'ouest du Kansas jusqu'aux États côtiers du Maryland, du Delaware et de la Virginie, soit une bande de territoire large de 2400 km. L'état d'urgence a été déclaré en Virginie, au Missouri et au Kentucky, et les gouverneurs de ces États ont appelé sur les réseaux sociaux les habitants à rester chez eux. Washington, la capitale des États-Unis, pourrait être recouverte de 12 cm de neige, allant jusqu'à 25 cm dans les zones avoisinantes. New York et la Pennsylvanie pourrait totaliser 61 cm. La compagnie American Airlines a émis une alerte à ses clients pour 46 aéroports du pays touchés par la tempête. Les scientifiques affirment que les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et de plus en plus graves en raison du changement climatique provoqué par l'homme.
Le cinquième procès en 5 ans de l'ancien président français Nicolas Sarkozy s'est ouvert lundi à Paris. Il doit répondre cette fois aux côtés de 3 anciens ministres d'accusation de financement illégal de sa campagne de 2007 par la Libye de Muammar Kadhafi, jugé pour corruption, recel de détournement de fonds publics, financement illégal de campagne et association de malfaiteurs. Nicolas Sarkozy encourt 10 ans de prison et 375 000 euros d'amende. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
La Banque islamique de développement a approuvé un financement de 80 millions de dollars pour la construction d'une centrale thermique de 40 mégawatts à Kankan, la deuxième plus grande ville de la Guinée. La structure vise à étendre le réseau de distribution d'électricité de la sous-station de Fomi à la ville de Kourousa et à 16 autres localités voisines, améliorant ainsi une meilleure stabilité et plus de fiabilité de l'alimentation en électricité. Le Soudan a levé un cas de force majeure de près d'un an sur le transport du pétrole brut de son voisin, le Soudan du Sud, vers un port de la mer Rouge en raison des nouveaux accords de sécurité conclus avec Djouba afin de garantir la sécurité de l'acheminement du pétrole. En mars 2024, le Soudan a déclaré la force majeure après que le principal oléoduc le reliant au Soudan du Sud pour l'exportation de brut avait été interrompu en raison des perturbations causées par la guerre entre l'armée soudanaise et les RSF. Pour terminer, la négociation des actions de Kenya Airways a repris après avoir été suspendue pendant plus de 4 ans, a annoncé ce lundi la Bourse du Kenya. La compagnie nationale kenyane avait demandé cette suspension en juillet 2020, lorsque le gouvernement avait proposé une loi pour renationaliser le transporteur en difficulté en pleine pandémie de COVID-19.
Place maintenant au sport avec Eric Manilakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Rosine.
Les pilotes du Dakar à l'épreuve du camping dans le désert.
Pour l'épreuve de la 48 heures au chrono, les pilotes du Rallye Dakar en Arabie Saoudite ont goûté dimanche à la rusticité du camping dans le désert. Les coureurs doivent affronter une étape de longue haleine de 967 km de spécial répartie sur 2 jours. Les motos et autos sont au gare pour repartir par ordre d'arrivée. Les moteurs reprennent leur souffle, les pilotes font le tour des dégâts. Parti vers 7 heures du matin dimanche, les concurrents ont été forcés de s'arrêter au gong de 17 heures et de rejoindre le point de campement le plus proche, d'où ils ont repris la course ce lundi matin. Dans le feu de la course, le tenant du titre et quadruple vainqueur du Dakar a fait un tonneau qui a laissé son véhicule gravement endommagé. Être encore en lice relève du miracle.
En Angleterre, Manchester United tient tête à Liverpool.
Manchester United, donné perdant d'avance, a non seulement résisté, mais a su tenir tête au leader Liverpool 2 buts partout, son rival historique, dans une rencontre de Premier League spectaculaire et indécise, dimanche à Anfield. L'affiche entre les voisins ennemis a pris des airs de combat de boxe en seconde période, où tous les buts ont été marqués. Au final, ce partage des points plutôt logique s'apparente davantage à une victoire pour Manchester United, qui arrivait en plein doute et repartit avec la fierté d'avoir tenu Liverpool en échec jusqu'au bout.
NBA, Oklahoma City remporte le choc face à Boston et attend Cleveland.
Le Thunder d'Oklahoma City a signé un 15e succès consécutif en dominant le champion Boston 105 à 92 dimanche à domicile, confirmant sa position de prétendant au titre NBA. Ce choc pourrait bien être l'affiche de la prochaine finale, avec le Thunder qui domine largement la conférence Ouest, 30 victoires contre 5 défaites, et Boston qui confirme sa solidité à l'Est, deuxième derrière Cleveland, 26 succès contre 10 revers. Les Cavaliers de Darius Garland, 25 points, ont facilement battu les Charlotte Hornets, 115 à 105, pour un 10e succès consécutif. À Houston, Jalen Green a marqué 33 points pour repousser les Los Angeles Lakers, 119-115, de LeBron James, 21 points, 13 rebonds, 9 passes, et Anthony Davis, 30 points, 13 rebonds. Les Golden State Warriors de Stephen Curry, 26 points, ont subi une lourde défaite à domicile face aux Sacramento Kings, 129 à 99.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Monezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, c'est une journée de manifestation à l'appel des forces vives du pays, une coalition de partis politiques et d'organisations de la société civile. Les opposants avaient appelé les Guinéens à se mobiliser pour contester le pouvoir de transition en place. Une mobilisation sans l'autorisation du gouvernement. Tierno Modumba a joint au téléphone le journaliste Nohou Baldé depuis Conakry.
Le constat, c'est qu'il y a des manifestations dans certains quartiers, des perturbations sérieuses et des affrontements entre des jeunes manifestants et des agents des forces de l'ordre. Il y a même eu un cas de mort au niveau de la T8, selon ce qui a été rapporté à la presse. Il y a des quartiers où on ne ressent pas la manifestation, mais toute la ville est impactée pratiquement par ces manifestations, puisqu'il y a des personnes, des citoyens, qui, même s'ils ne souhaitaient pas manifester, qui sont impactés et qui ne peuvent donc pas se déplacer dans les quartiers où il n'y a pas de circulation.
Le gouvernement n'a pas autorisé la manifestation. Quels sont les arguments invoqués par le pouvoir de Conakry?
Les organisateurs de la manifestation, les forces vives de Guinée, ont dit ne plus reconnaître les autorités de la transition à partir du 31 décembre 2024. Donc aujourd'hui, 6 janvier 2025, aucune lettre n'a été enregistré au niveau des mairies, actuellement délégation spéciale. C'est ce que Madame la gouverneure de Conakry a dit dans ses arguments et c'est ce que le gouvernement dit. On n'a reçu aucune demande d'autorisation. Donc clairement, il n'y a pas eu de demande et le pouvoir ne pouvait pas autoriser parce que une demande n'a pas été déposée.
Les forces vives disent ne plus reconnaître le pouvoir de transition dirigé par le général Mamadi Doumbouya. Sur le terrain, comment cela se matérialise? On sait que la plupart des opposants sont à l'exil ou en prison.
La toute première expression de cette désobéissance, ce sont les manifestations qui ont commencé par celle de ce matin. Pour le moment, il n'y a que les manifestations, les déclarations dans la presse et sur les réseaux sociaux. Pour le moment, c'est l'unique expression qu'on a remarquée sur le terrain. Évidemment, comme vous l'avez dit, les opposants sont en exil, en prison ou d'autres kidnappés comme les leaders du FNDC dont on n'a aucune nouvelle depuis des mois. Pour le moment, c'est l'unique expression, les manifestations, on ne remarque rien d'autre.
Nohou Baldé, directeur de publication du site guinematin.com.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Togo, la santé, l'éducation, l'inclusion sociale et financière sont les secteurs auxquels le gouvernement accorde une priorité dans le budget 2025 voté à 2 396 000 000 de francs CFA. Pour le gouvernement, le budget répond aux exigences et aux préoccupations des populations togolaises. L'opposition parlementaire qui a voté contre cette loi de finances estime ne pas être convaincue par les arguments des autorités. De Lomé, notre correspondant Kossou Ossou.
Selon le ministre de l'Économie et des Finances, Essowe Barkola, la loi de finances 2025, en augmentation de 9,9% par rapport au budget de 2024, traduit la volonté du gouvernement de bâtir une économie résiliente, équitable et inclusive tout en améliorant la qualité de vie des citoyens.
Les ressources importantes ont été allouées à différents secteurs, notamment la santé, pour la modernisation des infrastructures. hospitalière, l'éducation en vue d'améliorer les infrastructures et l'accès à une éducation de qualité, l'inclusion sociale et financière afin de favoriser l'accès des populations vulnérables aux services financiers. Il apparaît clairement que le budget exercice 2025 est aligné sur les priorités du gouvernement, répondant ainsi aux aspirations profondes des populations.
Kafuya Jamagbo-Johnson, de la dynamique pour la majorité du peuple, député de l'opposition à l'Assemblée nationale, n'est pas convaincu par les arguments avancés par le gouvernement.
Il y a presque la moitié, 49% du budget qui sont consacrés au secteur social. Nous n'avons pas pu avoir une idée de ce à quoi ça va servir concrètement et de l'impact que ça va avoir sur les populations. Nous sommes préoccupés par le fait que les fonds consacrés aux investissements sur les ressources internes du Togo sont très faibles. Ce n'est pas comme ça que nous allons développer le pays.
Aimé Gogué du parti ADI dénonce la forte pression fiscale sur les petites et moyennes entreprises et le secteur informel pour permettre au gouvernement d'atteindre ses objectifs budgétaires.
On sait que les contribuables togolais se plaignent à juste titre du poids de la fiscalité. L'OTR a réussi la prouesse de dépasser le taux optimal d'imposition sur le secteur informel. Ça veut dire que le secteur informel ou les petites et moyennes entreprises, l'OTR arrive à avoir une performance très importante sur ces secteurs, alors que d'autres secteurs ne sont pas bien imposés.
Au ministère de l'Économie et des Finances, on souligne que les mesures fiscales proposées visent à favoriser l'essor des secteurs économiques stratégiques. Argument partagé par Achole Akleso.
Ce budget traduit la sincérité et la fidélité du gouvernement, entre autres l'engagement du gouvernement en faveur des actions de renforcement du pouvoir d'achat de nos concitoyens et concitoyennes en vue d'une réponse adéquate et juste aux enjeux et défis actuels.
Pour le parti au pouvoir, l'analyse sommaire des secteurs prioritaires comme la santé, l'éducation, la protection sociale et l'agriculture renforce la conviction des militants que le gouvernement est sur la bonne voie pour répondre aux préoccupations des populations togolaises. Kossi Oussou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
En novembre, la Somalie a conclu des accords bilatéraux avec ses pays partenaires dans le cadre de la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine. Le représentant somalien auprès de l'ONU a indiqué que 11 000 hommes seraient mobilisés avec un financement assuré à 75% par les Nations Unies. Cette nouvelle force de l'Union africaine en Somalie viendra renforcer la mission africaine de transition en Somalie, ATMIS. Pour en parler, Eric Manilakiza, adjoint à Paris, Roland Marchal, chargé de recherche au CNRS.
On peut évidemment arguer du fait que des soldats risquent leur vie pour le devenir de la Somalie, des soldats qui ne sont pas somaliens. Notamment les Burundais ont payé un prix extrêmement élevé dans les batailles contre Shabab. Des soldats d'armée africaine aident à une pacification de la Somalie. De l'autre côté, il est évident que la perspective d'une opération internationale dirigée par l'Union africaine, financée par les États occidentaux, suscite beaucoup d'appétit. De nombreuses allégations ont depuis des années fleuri sur le coût important de ces missions, même si ce coût est relativement inférieur à celui d'une mission de maintien de la paix des Nations Unies. Et deuxièmement, sur peut-être pas les détournements, mais disons la façon dont cet argent est réellement octroyé aux contingents. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des contingents, des soldats de contingents internationaux qui devraient être payés au salaire de 1 050 euros pour un soldat de deuxième classe. Et on sait que ces soldats touchent quelquefois les deux tiers, quelquefois même moins, du salaire que paye la communauté internationale. Où va cet argent? Alors, il y a des explications qui peuvent être légitimes. Cet argent va au ministère de la Défense des pays concernés, donc peut représenter quand même une ressource considérable pour les budgets de la défense dans les pays Djibouti ou Burundi ou Ouganda, mais On soupçonne aussi, il y a eu un certain nombre d'affaires qui ont fait l'objet de traitements par vos collègues journalistes, qu'une partie de cet argent est détournée par des officiers supérieurs à différents niveaux, que ce soit dans les armées, au niveau des armées nationales, c'est-à-dire qu'une fois que l'argent a atteint les pays contributeurs de troupes, ou également au niveau de l'Union africaine dans les mécanismes de gestion.
Il y a eu ATMIS, maintenant il y a cette nouvelle mission. En quoi la nouvelle mission pourrait apporter à Mogadiscio pour gagner du terrain et vaincre les Chebab?
Écoutez, je crois que c'est une excellente question que vous posez. Je crois que la communauté internationale a été très hésitante jusqu'au dernier jour de l'année. La valeur ajoutée de cette nouvelle force par rapport à la précédente n'est pas très claire. Ce qui est désiré par la communauté internationale, c'est sans doute une mobilisation beaucoup plus effective de l'appareil sécuritaire somalien, et ce qui passe évidemment par une simplification, disons, une pacification des relations entre Mogadiscio et les États fédérés pour relancer une offensive contre Chabab qui, on se souvient, a connu de véritables succès à partir de l'été 2022, mais s'est considérablement émietté durant l'année 2023 et est resté une fiction rhétorique en 2024.
Roland Marchal, chargé de recherche au CNRS. Pour cette édition du Monde aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de la rédaction et à la production. Au micro, vous étiez avec Rosine Monezello, à la mise en onde d'Esme Conan. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.
tout de suite